Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Et jeudi 13 juin, à l'occasion de la sortie du numéro 12 de Spider-Man, qui comprend le dernier numéro d'Amazing Spider-Man, Monsieur Garcin sera présent à la boutique à partir de 14h pour une séance de dédicace exceptionnelle. À bientôt chez Pulps Bordeaux.
Bonjour à tous et bienvenue sur le 147e Comics Weekly. Cette semaine, une grosse sélection de Marvel et de DC. Étant donné que c'est la première semaine du mois, les deux gros ont décidé de sortir leurs meilleurs titres. Nous aurons aussi une partie indé avec un grand retour cette semaine, puisque c'est le retour d'Astro City qui avait disparu des linéaires depuis des années, qui revient chez Vertigo. Et puis nous terminerons l'émission avec la sélection des TPB de la semaine, une sélection qui vous fera encore dépenser énormément d'argent, puisque beaucoup de TPB sont à se mettre sous la dent en ce moment. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Avec moi cette semaine pour commenter les nouveautés, Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et tous.
Et Flo.
Salut les amis.
On va commencer tout de suite par du Marvel. La grosse sortie, c'est le Age of Ultron numéro 9, avant-dernier chapitre de l'event. Bruno, tu nous parles de ce numéro.
Oui, Age of Ultron numéro 9, donc Brian Michael Bendis au scénario. Au dessin, on a Carlos Pacheco et également Brandon Peterson. Donc on avait quitté le monde actuel en très mauvaise posture avec un hélicarrière du Shield qui est en train de s'écraser sur la Terre. Un monde complètement bizarre puisque après des modifications qui ont été faites dans le passé par Wolverine, Hank Pym est mort et du coup par conséquent beaucoup de choses ont changé. Et là c'était une invasion de Morgan la Fée. Qui attaque et c'est le gros bordel. C'est presque pire que Age of Ultron. Donc voilà, ça commence avec un Iron Man en très mauvais point qui dit à Wolverine, le Wolverine qui était allé dans le passé pour tuer Hank Pym, on peut pas changer le passé, ça ne fait que faire du mal à la continuité, à la chronologie, c'est une erreur. Et voilà. Et donc après Wolverine se dit, il faut peut-être que je fasse quelque chose, que je change. Que je choisisse une autre solution en fait. Et donc voilà. Après, je vais pas m'étendre un peu sur ce qu'il fait, mais bon, il fait quelque chose d'assez drastique, on va dire. Donc un numéro qui se lit bien, qui est plutôt que j'ai trouvé plutôt cool à suivre. Pas très original au final, puisque j'ai pas été énormément surpris quand même. Ça reste assez facile la façon de régler ça. Voilà, il reste encore une partie pour conclure cet Age of Ultron. J'espère que la fin sera quand même à la hauteur de cet événement.
Qu'est-ce qu'on a pensé, toi, Flo?
Oui, c'est facile, c'est facile, classique, ça se lit vite et bien. En revanche, j'ai quand même l'impression que là, c'est potentiellement à peu près fini. Enfin, on sait à peu près comment il peut s'en sortir. Et j'ai l'impression que vu tout ce qu'on nous promet pour le 10, ça va être à du remplissage pour, je sais pas, pour intégrer plein de trucs, parce que je vois pas trop les choses incroyables qui pourraient nous sortir de leur chapeau pour le 10e chapitre, quoi. Donc oui, d'accord, c'est bien, mais j'ai l'impression que toujours, il y a toujours plein d'épisodes pour pas grand chose, quoi. L'histoire avance pas, enfin, c'est pas très très utile, quoi. Et j'ai peur que le numéro 10, ça soit un truc qui n'a rien à voir.
Pour ma part, un numéro que j'ai trouvé très sympathique à lire. Voilà, un numéro calme. En fait, il se passe vraiment pas grand-chose. Un numéro très calme, très introspectif. Bon, c'est pas le meilleur travail de Bendis, hein, l'introspection. Une cover, on va dire, passablement mensongère. Seulement passablement. C'est un petit peu ce qui m'a dérangé le plus, en fait.
Ah bon?
Bah ouais, la cover est quand même mensongère.
Moi, je trouve pas. Mais...
À moitié. Voilà, ouais. On va pas en dire plus pour éviter de spoil, mais voilà, tu t'attends à quelque chose que tu n'as
ouais,
pas
ouais.
vraiment.
Au final, ouais.
C'est un peu ce qui me dérange, quoi. Bon, en même temps, d'un côté, je suis assez content parce que j'avais pas forcément envie de voir ça, mais le teaser tellement sur la cover et qu'au final, il y a rien vraiment qui ressemble à ça. ça m'a dérangé un petit peu. Mais bon, un épisode assez sympa. Maintenant, tu te demandes un petit peu ce qui va se passer pour la fin, quoi. Je crois que la fin, ça va être l'autre équipe qui était partie dans le futur.
Ouais, je suis pas sûr, parce que l'équipe du futur, elle s'était fait défoncer quand même, hein, j'avais l'impression. Je pense qu'ils vont retourner dans le présent. Enfin, bon, je veux pas, on va pas dire de suppositions, mais en tout cas, je pense qu'on va quand même retrouver Ultron. Ce serait bien quand même dans Age of Ultron qu'on ait quelques épisodes avec Ultron, parce que ça fait 3 épisodes qu'on le voit plus.
Bah, tu le vois là, Ultron.
Ouais, mais pas vraiment beaucoup, quoi. Mais c'est quand même assez sympa. Après, j'aime bien le côté graphique avec toujours cette alternance entre le présent et le passé. C'est plutôt propre. Une Susan Storm qui a pas vraiment vieilli, hein, comme le dit.
Une Susan Storm qui sert à rien, surtout.
Qui sert pas à grand chose en plus, ouais. Mais bon. Voilà.
Si au moins elle a eu un petit peu d'action sexuelle avec Wolverine, je ne sais pas, elle aurait pu servir à quelque chose, quoi. Ce qui relâche la pression au moins, mais là,
c'est
même pas.
C'est
vraiment
sexiste,
ce que tu dis. Non, mais enfin, franchement, elle a servi à rien, quoi.
Elle était copilote.
Je pense que c'est parce que si on avait mis Wolverine tout seul, les gens auraient dit oh non, encore Wolverine tout seul qui fait tout, off. Oh, mais là, franchement, elle aura vraiment servi à rien de toute l'histoire.
Non, mais c'est Pacheco, il voulait dessiner la tenue moulante de Susan Storm pour bien mettre en valeur ses boobs. Voilà.
Elle a servi à faire un tie-in assez intéressant de Matt Kint dans Wolverine et The X-Men.
Ouais.
Mais ça peut pas. C'est le seul endroit où on l'a vu vraiment. Mais c'est vrai.
Donc ouais, bon bah, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter sur cet épisode, on va peut-être pouvoir passer à la suite.
Pas
non,
pas vraiment, ouais.
Bah, ouais. Pour moi, c'est un check-it plus.
Moi, ça reste un bail.
Check-it aussi, check-it.
Allez, on passe à la suite, c'est le Avengers numéro 13, scénarisé par Jonathan Hickman avec Nick Spencer et dessiné par Mike Deodato. On retrouve les Avengers dans le Savage Land avec la petite bande qui était et qui veillait sur des espèces d'êtres... bizarrement développé, on va dire. En tout cas, avec une évolution étrange qui avait été enlevée par le maître de l'évolution et Hyperion pas content qui veut aller les récupérer puisqu'il les considère comme ses enfants. Voilà, grosso modo, le résumé de l'histoire. Alors, on a le retour d'un personnage assez drôle, le personnage de Garrok pour les vieux. Mais il est très très vieux, qui s'en rappelleront. Donc, assez marrant de voir Hickman récupérer ce personnage et l'utiliser. Bon, on a une équipe assez sympa. C'est pas l'équipe phare des Avengers, mais c'est un regroupement entre Hawkeye, Spider-Woman, Spider-Man, Thor, Hyperion et Iron Man. Voilà, l'équipe rentre dedans, ça tape de tous les côtés. C'est un petit peu ce qu'on attend, ça bouge un peu, quoi. Mais bon, on n'a toujours pas forcément de certitude sur où ça va. C'est un petit peu le problème. Ils essayent de régler ces problèmes d'évolution un petit peu accélérée, un petit peu forcée. Mais je commence à avoir l'impression que ça tourne légèrement en rond. Et ça m'embête un petit peu que ça tourne en rond. Donc pour moi, ce sera un check-in cet épisode. C'est très joli, l'histoire est très sympa, mais ça tourne en rond. Voilà. On va passer à la suite, c'est le Avengers Arena numéro 10, Bruno.
Oui, Avengers Arena, toujours Denis Soples au scénario et Ricardo Burchielli pour ce numéro au dessin. On avait découvert que Apex était un personnage assez particulier puisque en fait il y avait deux personnes à l'intérieur d'elle, un garçon et une fille, et qu'en fait en fonction de qui prenait le pouvoir du corps, il y avait deux psychologies très différentes, le garçon plutôt gentil et la fille très machiavélique, et qui commence à exterminer un petit peu tous les autres jeunes qui sont emprisonnés dans le Murder World. Donc là c'est un peu Apex qui prend le contrôle, et dans ce numéro ça commence très très mal pour Nico, la membre des Runaways, qui se trouve en très 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 mauvaise posture. Donc voilà, après il y a un petit flashback qui réexplique comment elle est arrivée dans cette situation. C'est bien écrit, toujours j'aime bien la façon dont les personnages sont représentés, la façon dont ils interagissent. Apex est vraiment une peste, quoi, c'est horrible. Donc qui s'est vraiment dévoilé dans ces circonstances un peu tragiques. Et donc voilà, ça va mal, on a pas mal d'action, on a X-23 qui intervient pas mal. Et justement Nico, qui est un peu le focus de cette histoire, qui est obligé un petit peu d'utiliser ses sorts de magie pour sauver ses camarades. Donc un numéro que j'ai vraiment trouvé agréable à lire. Pas trop fan des dessins, il était peut-être pas très en forme, Burchielli. Par contre, voilà, avec une fin qui va faire jaser, on va dire, les fans de tous ces jeunes héros. Donc, c'est toujours très agréable à lire. Avengers Arena, pour moi, c'est un bail.
Très bien. Et ben on continue sur All New X-Men numéro 12, Flo.
Brian Michael Bendis au scénario et Stuart Timonen au dessin. Premier bon point, c'est très joli. Stuart Timonen est très en forme.
Ah, tu trouves? Parce que je l'ai feuilleté, j'ai trouvé ça
Sur
très
ça,
très moche.
bah moi j'ai trouvé sur. Enfin, en fait, ça dépend des personnages. Ça dépend des personnages. J'aime beaucoup son Wolverine. Et après, d'autres. Bof, mais son Wolverine et son Cap m'ont beaucoup plu.
Parce que moi, en feuilletant, vraiment, je l'ai trouvé, mais alors absolument pas en forme, quoi. J'ai eu l'impression que le mec avait rushé comme pas possible pour terminer, parce que j'ai trouvé ça, franchement, du très mauvais Immonen, en fait.
C'était pas non, ça va. Enfin, ça va. Pour le reste, ça va. Et j'ai bien aimé des effets de lumière aussi, assez sympa, d'ombre, etc. Et un Wolverine très joli. Pour l'histoire, les Uncanny Avengers rencontrent les All New X-Men, quoi, hein, comme à la fin du numéro précédent. Et puis Alex Summers, il est content parce qu'il retrouve son frère du passé. Et son frère du passé, Scott du passé, il est content de retrouver son frère. Donc c'est une rencontre émouvante. Et puis la jeune Jean Grey voit Scarlet Witch et elle lit dans son esprit alors que normalement elle n'a pas le droit. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à s'énerver parce que elle a vu dans son esprit que il y a eu le No More Mutants, etc., etc. Et voilà. Et bla, et bla, et bla, et bla, et bla, et bla. Et pendant ce temps, Mystique et Sabretooth et l'autre nana dont j'ai oublié le nom, ils continuent à faire des casses et à gagner à piquer de l'argent. Et bla, et bla, et bla. Voilà, c'est tout.
Un épisode que t'as pas trop apprécié finalement.
Non, c'est ça n'avance pas, quoi.
C'est un
Ça
peu bavard.
blablate. En gros, c'est une scène tout au long du numéro, ça sert à rien, ça n'avance pas. C'est con parce que c'est. Cette série a tellement de potentiel, il y a des numéros vraiment cool et des numéros où c'est ça, en fait, que du blabla comme ça. Et honnêtement, ça sert à rien, quoi. Donc moi, ça sera un check-it. Bon, si vous lisez la série, lisez-le, quoi, mais ça fait. J'ai pas trop de ça fait avancer l'histoire. C'est du Bendis blablateux. Voilà. Bref.
Du
Et qui
Brandis décompresse, quoi.
décompresse à mort, c'est
Ouais.
ça. Voilà.
La rencontre entre le Scott du passé et le Havoc, puisque le Scott du passé, c'est quand même à l'époque où il croyait que son frère était mort. Donc, est-ce que c'est bien
Oui,
géré au moins ça ou pas?
il y a une belle rencontre, c'est assez émouvant ce côté-là, mais ça ne sert pas l'histoire spécialement, quoi.
D'accord,
C'est
ouais.
juste pour ce numéro, il y a une rencontre entre Havok et le Scott du passé, quoi.
Ok.
Donc un petit check-in.
Petit check-it. Bon, tu parlais de Wolverine, on va rester dessus puisque c'est la sortie cette semaine du Wolverine Season 1. Vous savez que j'aime bien regarder quand même les Season 1. En général, c'est moi qui me les tape. Hein. Pour celui-ci, je suis assez content parce
Ah
que
bon?
finalement, il est plutôt pas mal. Ouais, c'est scénarisé par Ben Acker et Ben Blacker qui sont en fait deux scénaristes principalement de séries télé. On a pu les voir sur le casting notamment de. Enfin, sur les scénarios plutôt de Supernatural, entre autres. C'est dessiné par Salva Espin et ancré par Cam Smith. Et c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, ça revient. En fait, on est dans le Wolverine de l'époque années 90. Alors, je rappelle le principe des Season 1 pour ceux qui ne connaîtraient pas. On essaye de réimaginer les origines du personnage, mais façon moderne. Voilà, grosso modo, le postulat de base. Sauf que cette fois-ci, on n'est pas dans le Wolverine. Avec la mini-série Origin, mais on est dans le Wolverine qui ne se rappelle pas de son origine, c'est-à-dire après le projet Arme X.
D'accord, ok.
Donc il est au Canada et il va être recueilli par Heather Hudson ainsi que James, hein, son mari, ceux qui formeront par la suite Alpha Flight.
D'accord, ok.
Et c'est plutôt agréable de retrouver cette ambiance années 90. Enfin, moi, j'ai vraiment aimé ça, quoi. Le Wolverine qui n'avait pas encore récupéré tous ses souvenirs, qui ne savait pas forcément qui il était, qui luttait contre son côté animal, sont des choses qu'on a vues plein de fois. Mais là, c'est plutôt bien écrit. On a une bonne histoire de Wolverine et ça peut faire un bon petit rafraîchisseur de mémoire, on va dire, pour ceux qui auraient oublié tout ça, parce qu'il s'est passé énormément de choses dans la vie de Wolverine depuis. Et puis pour ceux qui ne connaîtraient pas cette époque, ça peut leur donner envie, en tout cas, de découvrir un petit peu plus ce Wolverine avant qu'il se rappelle le tout.
D'accord.
Et vraiment, vraiment très sympa. J'ai été surpris en bien. J'ai plongé dans le truc et je l'ai lu, mais d'une traite et vraiment agréablement surpris. Les dessins sont pas sans sas, mais sont honnêtes. Franchement, ils sont très honnêtes. C'est plutôt sympa. Alors, il y a de temps en temps Wolverine qui a une drôle de gueule sur certaines pages. Mention spéciale au Wolverine qui essaye de faire l'espion et qui va donc dans un grand restaurant avec Heather et donc bien peigné tout en arrière et tout en costard. C'est rare de voir Wolverine comme ça. Et qui apprend à se servir d'une fourchette. Il y a un côté très breaststroke, en fait, dans la façon dont c'est fait. Bon, bah, bien sûr, il trouve la bonne fourchette, mais s'en sert pour se gratter la tête. Donc c'est.
Non, ouais. Mais c'est comme dans La Petite Sirène, ça.
Oui, bon, aussi. Bravo. Aussi, ouais, ouais.
Super
aussi.
Référence, je sais.
Mais... Ouais, ouais, ouais. Ouais. Moi, j'ai tout de suite pensé plus à Greystoke, mais oui, La Petite Sirène aussi, ça marche.
Et donc, dis-moi, en fait, pas du tout de confrontation entre Wolverine et Hulk, alors ? C'est pas du tout comme sa première apparition ?
Ah bah si.
Ah, quand même, si. D'accord. Ça justement. Va reprendre quand même cette fameuse première apparition de Wolverine
exactement.
Dans les comics.
Voilà, d'accord. On reprend l'apparition de Wolverine, il va se fighter contre Hulk, on va voir aussi Sabretooth qui va passer, et puis bien sûr, le Wendigo qui sera là. Non, franchement, vraiment, j'ai pris un plaisir incroyable à lire ça. Ça révolutionnera pas Wolverine, ça révolutionnera pas le comics, mais c'est une bonne lecture. C'est vrai que c'est un peu cher, ça reste quand même un produit à $24, mais pour quiconque ne connaîtrait pas ou aurait envie de redécouvrir cette période avec finalement une nouvelle histoire, même si de nouveau, ça en a que le nom, je trouve que c'est plutôt pas mal, quoi.
Et bon, ça sortira sans doute en français à un meilleur
tarif. Ouais,
ouais,
ça sortira très prochainement en français.
Petite question, est-ce que, comme c'est un personnage quand même assez violent, Wolverine, est-ce que c'est un titre, on va dire, plutôt mature au niveau des dessins, ou est-ce que c'est quand même quelque chose qu'on peut faire lire aux plus jeunes pour découvrir le personnage ?
Tu peux le faire lire aux plus jeunes, mais bon, évite aux enfants de moins de 8 ans, quoi, peut-être.
Voilà, d'accord. Mais c'est parce que souvent, les Season 1, ça peut être un bon moyen aussi de faire découvrir aux plus jeunes. Et parfois, ils les ont fait un peu trop violents. Il y en avait qui étaient très.
Il y a quand même du sang. Wolverine sort ses griffes. Il tranche un peu. Il griffe les gens. Donc, oui, il y a quand même un peu de sang, quoi. Mais je veux dire, aujourd'hui, un gamin de 8 ans.
Ouais, il a l'habitude maintenant.
L'habitude,
même
peut-être
s'il
pas,
regarde un petit poney, il sait ce que c'est la violence, quoi.
Donc... Oui, disons qu'en dessous 10-12 ans, peut-être pas, quoi. Mais,
d'accord, ok.
Mais non, franchement, moi j'ai pris vraiment un plaisir incroyable à lire ça, et je m'y attendais pas, je m'attendais vraiment à une redite de Origins, justement. Enfin, de Origin, pardon. Et j'ai été surpris en bien, finalement. Donc voilà, moi j'ai envie de dire un check-it, parce que c'est pas quelque chose qui restera dans l'histoire du personnage comme un truc définitif. Donc, la portée au niveau de la continuité, elle est nulle. Donc voilà, juste check it, quoi. Vraiment pour ceux qui ont envie de se faire un petit peu plaisir. On va maintenant passer à une autre sortie un petit peu en marge de la continuité classique, puisque c'est la sortie de Marvel's Thor The Dark World Prélude. Bruno va nous parler de ça, mini-série en deux.
Voilà, c'est ça, c'est le premier numéro. Alors, au scénario, qui on a ? On a Christopher Yost et Craig Kyle. Au dessin, on a Scott Eaton. C'est dans la continuité des films, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est dans le comics, a priori, c'est canonique. Et ça va revenir un petit peu sur la fin de Thor, les conséquences une fois que le Bifrost a été détruit. Ça commence de façon plutôt sympathique, puisqu'on a un aperçu de pas mal de choses dans l'univers, comme on voit les conséquences sur Jotunheim, on voit une autre planète où il y a des sortes de créatures, des trolls, on voit la planète des Badoons, on voit le système de Vanheim, enfin des choses intéressantes, et on se dit voilà quoi, ils vont aller à fond dans le côté galactique avec pas mal de créatures et compagnie, donc ça c'est plutôt cool. Après, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on suit le fameux Thor qui est un peu dégoûté parce qu'il peut plus retourner sur Terre, comme le Bifrost est cassé. On a quelques pages où on voit Jane Foster sous les traits de l'actrice Natalie Portman qui essaye, elle, de rétablir un moyen pour atteindre le monde d'Asgard. C'est assez sympathique, on va dire. Il y a toujours cette fameuse petite sidekick qu'elle a qui est assez marrante. Ça reste vraiment dans l'esprit des films. Et après, en fait, on se retrouve plutôt dans la période d'Avengers, où en fait on voit un peu comment Loki a rencontré Thanos, tout ce qui s'est passé. Enfin, voilà, c'est on va un petit peu dans les coulisses d'Avengers. Et là où j'étais un petit peu déçu, c'est que les 6 dernières pages, on va dire, du comics ou presque, c'est des resucés en fait de Avengers justement. Donc on retrouve l'arrivée de Loki dans le complexe du Shield. Enfin, c'est des choses. J'étais un peu déçu. J'aurais préféré qu'ils fassent des ellipses et qu'ils partent sur du matériel inédit. Néanmoins, il y a quand même de bonnes choses vers la fin, en particulier sur Odin qui a des secrets à révéler à Thor. Franchement, c'était une lecture agréable, bien mieux que le prologue qu'il y avait eu pour Iron Man, qui était vraiment nul et qui graphiquement n'était pas terrible. Là, graphiquement, ça se tient.
Bah, t'as, sur le papier, t'as une bonne équipe, quoi. Craig Kyle,
Voilà, c'est ça.
Chrisios, ou est-ce
Non,
inverse?
là, ils...
Non, c'est Chrisios, c'est Craig Kyle plutôt.
Ouais, c'est ça. Mais là, ils
Et
ont
puis
mis,
Scott Eaton, quoi.
ouais, ils ont mis plus de moyens et ça se voit et ça se sent. Donc, franchement, pour les fans de la continuité des films, franchement, c'est un check-it. Et moi, je regrette pas mon achat. C'est en 2 parties. Bon, il y a de très fortes chances que ça sorte en français avant la sortie du film de Thor, mais si vous voulez déjà replonger dedans, allez-y.
Ils avaient déjà sorti le Iron Man Prélude, hein,
C'est
donc.
ça. Et ça c'est clairement, enfin, c'est vraiment au-dessus, hein.
D'accord.
Vraiment au-dessus. Donc
Et
un check-it.
tu me rassures parce que je m'étais bien foutu de ta gueule avant l'émission quand tu nous as annoncé que tu avais lu ça. Donc bon, bah voilà, je te fais mes excuses. Et peut-être que j'y jeterai un œil, tu m'as quand même donné envie
Voilà,
d'aller
après
voir.
c'est pas du tout le comics de l'année, hein, mais check
Bah,
it, tu
tu m'as
mérites
donné
un
envie
petit
d'aller
check
voir,
it.
c'est le but, hein, du check-it.
Voilà.
On va passer à Flo maintenant qui va nous parler de son coup de cœur de la semaine. Coup de cœur qui aurait pu être le mien aussi, mais j'ai lu autre chose. Voilà.
Oui, c'est Daredevil Dark Knights numéro 1, donc c'est le premier numéro d'une série un petit peu parallèle à la série principale Daredevil qui va en fait consister en plusieurs petits arcs écrits et dessinés par des équipes créatives différentes à chaque fois. Donc là, on est sur un. Ça débute avec un arc en 3 parties, je crois,
Oui, c'est ça.
écrit et dessiné par Lee Wicks et colorisé par Lee Loughridge. Alors, ça se passe à Hell's Kitchen, enfin, ça se passe à New York, l'hiver, il
Moins
fait très
80 à peu
froid.
près.
Il fait très, 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 très froid, la ville est complètement paralysée, il n'y a personne dans les rues, c'est terrible. Et le comic se s'ouvre sur une scène assez tragique d'un accident de voiture, une famille avec 2 enfants qui a un accident de voiture. Et il se trouve que un des enfants, eh bien, il est presque mort et on ne peut pas le sauver. Mais ses parents vont décider de lui donner, de donner ses organes à des gens dans le besoin. Et notamment une petite fille dans un autre hôpital de New York. Hôpital où, tiens, on retrouve Matt Murdock. Matt Murdock complètement débraillé sur un lit d'hôpital, inconscient. Et ce Matt Murdock, il a perdu la mémoire. Et il est complètement désarçonné, il ne sait pas où il est. Voilà. Et je vous en dis pas plus, mais il y a en gros une histoire entre Matt Murdock, Daredevil et cette jeune fille à sauver à l'hôpital qui est en attente d'un cœur. Voilà. Donc c'est écrit et dessiné par Lee Wicks. Donc c'est très joli au dessin, je trouve. C'est un élève de la Cubert School, je crois. J'avais jamais lu de truc de lui. C'est très bien écrit. Ça ressemble beaucoup dans le découpage et dans l'écriture au Daredevil de Frank Miller.
Bah, il a été à bonne école, hein, de toute façon.
Voilà, non, très nettement, parce que je les ai lus en plus il y a peu de temps, tout le run de Miller sur Daredevil. Au niveau des grandes cases horizontales, les grands rectangles horizontaux assez fins, comme ça, qui s'enchaînent de haut en bas avec des colonnes de texte sur la gauche. Vous voyez un petit peu ce genre de découpage. Le découpage est sublime et ça fait vraiment penser à du Frank Miller et c'est incroyable. Je trouve vraiment le découpage incroyable et le storytelling excellent. Et l'histoire est prenante et très très belle et enfin, ça m'a scotché totalement, quoi.
Ce qui est marrant, c'est qu'au début, on comprend pas trop ce qui se passe parce qu'on a plusieurs histoires en parallèle qui se mêlent. On ne sait plus si on est dans le présent, dans le passé, on ne
Ouais,
sait
tout à
plus
fait.
quand on est. Et tout ceci va prendre forme peu à peu et avant la fin du comic, on va savoir exactement, on va avoir remis toutes les pièces du puzzle dans l'ordre. et on va comprendre vraiment l'histoire. Et c'est vraiment bien foutu, quoi. Moi aussi, j'ai été très, très, très surpris à la lecture. Bon, de toute façon, voilà, une série sur Daredevil, c'est une mini en 8, hein, voilà, qui va être une anthologie. Donc, ça engage pas à grand chose. Puis surtout, si vous voulez juste une histoire de Lee Wicks, vous prenez les trois premiers, vous n'êtes pas obligé d'acheter la suite. Puisque, bah, par la suite, on aura Howard Chaykin, je crois. J'ai plus les noms sous les yeux, donc je vais les reprendre en deux petites secondes. Enfin, on va avoir du beau monde qui va passer. Non, on a du David Lafemme, pardon. Et puis, pour un arc en deux, et pour les deux derniers, on aura du Jimmy Palmiotti avec Tony Silas. Donc voilà, si vous êtes, si vous voulez n'être intéressé que par l'histoire, par exemple, de David Lafemme, vous pouvez acheter que ça. Même si c'est une mini en 8, rien ne vous oblige à acheter les 8 épisodes. Et du coup, bah voilà, moi j'ai pris ça parce que ça m'intéressait énormément, une anthologie sur Daredevil. Voilà, j'ai envie de voir en plus du Lee Wicks et j'ai été bluffé comme toi, quoi. C'est vraiment impressionnant. Les pages sont de toute beauté, le storytelling, comme tu as dit, est très bon parce que très nébuleux au départ. Finalement, on se retrouve un petit peu comme Daredevil, quoi. On comprend pas trop toutes les choses. Lui est amnésique et comprend rien, et nous non plus, on comprend rien à ce qui se passe vraiment. Et voilà, il y a des planches qui sont magnifiques, il y a des passages qui sont vraiment enclin d'héroïsme. Enfin voilà, la scène dans l'hôpital où il va jouer les justiciers, elle est géniale, quoi.
Et on voit les influences vraiment de Frank Miller. Bon, je l'ai dit dans les découpages, dans les pages avec ces cases tout en longueur, etc. C'est des découpages vraiment typiques. Et aussi dans les bastons, oui. Ces bastons à hauteur d'homme. On voit, tu vois ce que je veux dire, cette baston, ouais, dans la neige là. Cette baston à hauteur d'homme, comme s'il y avait un spectateur qui était à peu près à 10 mètres des gars. C'est vraiment typique de Frank Miller ou de Born Again aussi un petit peu. Mais oui. Born Again, on sait que Frank Miller a fait les layouts, etc., etc.
Et puis ça reste, comme tu l'as dit, c'est à hauteur d'homme au niveau visuel, mais c'est à hauteur d'homme aussi au niveau des pouvoirs. Finalement, ah oui, il n'y a pas de super pouvoir, il n'y a rien.
Ah là, il n'y a pas de super héros.
Même clair. Si on sait que Daredevil a ses super pouvoirs, d'ailleurs, ils ne sont quasiment pas représentés, hein, à part le son. On ne voit pas son sens radar, rien.
Ben non, parce qu'il y a le temps est merdique et du coup, ça immobilise totalement ses sens. Et voilà, il est.
C'est vraiment une autre vision du personnage de Daredevil. Et si vous n'aimez pas le run de Mark Waid, si vous n'aimez pas ce que Mark Waid a fait du personnage, ben prenez ça justement parce que peut-être que ça reviendra à ce que vous attendez de Daredevil. C'est plus sombre en un sens et c'est pas le Daredevil plus enjoué de Mark Waid, même si d'enjoué il n'en a que l'apparence chez Mark Waid, puisque
oui, parce qu'en ce moment c'est plutôt
ouais, mais même depuis le départ finalement, okay. Les 3-4 premiers épisodes étaient très enjoués et puis finalement c'était une ruse. Mais non, franchement, allez-y, c'est ton coup de cœur de la semaine, hein, Flo, de toute façon.
Ouais, c'est une histoire vraiment poignante, c'est émotionnellement très riche et c'est superbe. Donc, c'est mon coup de cœur.
Bon, je crois que t'as compris ce qu'il te reste à faire, Bruno.
Bah ouais, je l'ai déjà acheté, hein, mais j'ai pas eu le temps de le lire. En tout cas, je l'ai feuilleté, c'est très beau.
Ah, c'est un gros, gros bail hein, cette semaine, ouais. Que ce Daredevil Dark Knights numéro 1. On va terminer justement notre partie Marvel avec toi, Bruno, qui va nous parler du Ultimate numéro 25. Alors, est-ce un numéro anniversaire ou est-ce que Marvel a oublié cette grande tradition du 25e anniversaire ?
C'est un numéro anniversaire dans le sens où c'est l'arrivée d'un nouveau scénariste. Donc, c'est mon chouchou, c'est Joshua L. Fialkoff qui va écrire cette histoire. C'est un peu une sorte de nouvelle saison pour les Ultimates. Donc, du coup, pour un numéro 25, c'est plutôt cool. Au niveau des dessins, on a Carmine Di Giandomenico, donc un artiste que je ne connais pas trop, mais qui a un style assez particulier. Je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde.
Ouais, il a beaucoup travaillé sur les Marvel noirs, notamment.
Ouais, voilà, mais c'est ultra détaillé. Parfois, les visages sont un petit peu déformés, ça fait un petit peu bizarre. Par contre, d'un point de vue dynamique, c'est assez cool. Bon, voilà, après, c'est pas une claque graphique, on va dire. La colo, par contre, est vraiment chouette. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle saison? Eh bien, ça commence dans le Triskelion, en fait, dans la prison du Triskelion. On a Banner qui est emprisonné parce que depuis ce qui s'était passé avec Reed Richards et compagnie, ben, il a été considéré vraiment encore plus comme une menace, donc ils l'ont enfermé. Et là, il y a quelqu'un de mystérieux qui vient le sauver, le libérer. Et du coup, en fait, il se libère, Bruce. Et pendant ce temps, dans le Triskelion, on a les Ultimates qui sont en train de discuter parce qu'ils viennent de récupérer plusieurs gemmes de l'infini, et Susan Storm est en train de leur expliquer un petit peu le pouvoir de ces gemmes et qu'est-ce qu'ils pourraient en faire. Et là, tout d'un coup, il y a Bruce Banner qui débarque sous sa forme de Hulk, qui commence à tout casser, il fait tout péter le Triskelion, hein. Ça c'est dans les trois premières pages.
Comme d'hab.
Et voilà, et on le voit avec deux gants de l'infini à la main, cinq gemmes, et il dit « je vais vous péter la gueule, bande d'enculés. Enfin, il dit presque ça. Et donc voilà. Et donc après, il leur tape dessus. Il y a un autre méchant qui arrive pour semer la zizanie. C'est une bonne grosse baston. Franchement, plutôt cool. Et à la fin, on a en plus, ils font pas trop traîner le mystère. On a la révélation sur qui est la personne qui a libéré Banner et sur quelles sont ses motivations. Et bah du coup, ça lance bien cette nouvelle histoire et ça redonne un petit peu de dynamique à un univers qui était Ultimates, qui était un petit peu dans le flou là avec depuis que Captain America était le président. Dans le numéro précédent, il avait laissé tomber le job de président et c'est mieux de l'avoir en tant que membre des Ultimates que en tant que président. Donc franchement, une bonne histoire qui plaira peut-être pas à tout le monde au niveau graphique, mais qui en tout cas d'un point de vue du scénario et de l'action est vraiment très bonne. Donc pour moi, c'est un bail.
Bon, bah, est-ce que ça peut être un bon point d'entrée pour ceux qui ne se seraient pas encore mis à la série ou...
Bah, point d'entrée, oui, si, clairement, parce que c'est, enfin, on connaît tous un peu les personnages, même s'ils ont des origines un peu différentes, mais là, ça commence vraiment avec un nouvel arc, et mine de rien, le personnage qu'ils introduisent, c'est un personnage classique de l'univers 616, donc on sait déjà un petit peu ce qu'il va pouvoir faire, et vous serez pas trop perdu, quoi.
Non, par point d'entrée, je veux dire, ça se base pas trop sur la continuité précédente,
non, non,
quoi.
Non, non, d'accord. Ça se base pas. C'est vraiment un nouvel arc. D'ailleurs, ça s'appelle The Ultimates Disassembled, un petit peu en hommage à ce qui avait été Putain. Fait sur Avengers Disassembled, quoi.
Encore. Voilà. Et j'en ai marre de le voir écrit partout, Disassemble, quoi. Oh putain, on devrait carrément leur envoyer des lettres de menace et, ouais, en disant si vous utilisez encore Disassemble, on arrête d'acheter vos comics.
No more Disassemble.
Qui sait, ce sera peut-être la phrase de fin d'Age of Ultron.
Peut-être.
T'as peut-être deviné le truc, Flo, à l'avance, et c'est peut-être ça le fameux truc qu'on personne pourra deviner. Donc un bail, finalement.
Un bail pour moi, bon, je suis fan de l'univers Ultimate, mais. Tentez votre chance.
On va maintenant passer à la partie indé et on commence avec le deuxième numéro de Ten Grand, donc nouvelle série de J. Michael Straczynski. C'est dessiné par Ben Temple-Smith et on va reprendre l'histoire de ce pauvre personnage qui était un tueur à gages pour la mafia, qui décidait de faire un dernier contrat et de partir très loin de tout ça avec sa fiancée. Pas de bol, il s'est fait tuer, elle aussi. Et les anges l'ont sauvé en faisant un tueur à gages pour eux, finalement. Un mec qui va s'occuper des divers cas qu'ils vont lui donner. Et quand il s'occupera bien de ce cas-là, à chaque fois qu'il mourra, puisque bah, de toute façon, forte chance qu'il y reste, eh bien, il pourra passer 5 minutes au paradis avec sa femme et puis repartir sur Terre, continuer à travailler pour eux jusqu'à ce qu'il ait pu se racheter de tout le mal qu'il a pu faire dans sa vie. Voilà grosso modo le postulat de départ de la série. Dans le premier épisode, il était contacté par une jeune fille qui disait que sa sœur était prise dans un culte, une espèce de secte, un peu démonique d'obédience en tout cas, et que notamment le chef de cette secte était... et ça il a pu le voir sur la photo que cette fille lui a donnée, était la personne qui l'avait tué, lui et sa femme. Donc lui qui prend d'habitude 10 000 $, d'où le nom Ten Grand, pour réaliser ces contrats-là, finalement le fait gratuitement pour pouvoir se venger. Et les choses ne vont pas forcément très très bien se passer, et c'est ça qui est tout l'intérêt, il va plonger dans cette secte et on va découvrir un petit peu comment marchent les démons. C'est-à-dire que dans le premier épisode, Straczynski nous a montré un petit peu le côté angélique, entre guillemets, hein, la voix des anges. Et là, cette fois-ci, il va nous montrer quel est le plan des démons, comment ils sont, comment ils réagissent, et surtout, qu'est-ce qu'ils veulent à ce pauvre personnage qui se retrouve finalement au milieu de quelque chose qu'il n'a peut-être pas voulu au départ. Encore une fois, un très bon épisode, l'histoire est très bien posée. Alors, c'est très verbeux, c'est assez long à lire. C'est du Straczynski, il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de textes. Mais c'est vraiment génial, les dessins de Temple-Smith renforcent cette atmosphère très malsaine avec les démons. On a une espèce de démon qui a un espèce de gros tas de chair dégueulasse avec des dents partout. Et voilà, c'est franchement, visuellement, au niveau du scénario, c'est très bon. Et j'ai vraiment qu'une hâte, c'est découvrir la suite de cette histoire et voir où ça va aller. Puisque le titre de l'épisode qui est « Les anges ne mentent pas » va prendre tout son sens avec cet épisode-là. Voilà, donc un gros gros bail encore une fois pour ce Ten Grand, une très bonne série, un très bon produit Image, et j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. On va passer à un retour maintenant. C'est vrai que c'était le retour de J. Michael Straczynski sur des projets indépendants, et bien là c'est un retour d'une autre série indépendante, cette fois-ci chez Vertigo, et c'est Flo qui nous en parle.
Oui, et bien c'est Astro City. Alors c'est Astro City, il y a numéro 1, sauf qu'en fait c'est a priori le numéro 60. d'Astro City, qui a démarré chez Image, qui est passé chez Wildstorm et qui là revient chez Vertigo. Pour une fois, une série qui sort chez Vertigo, nouvelle.
Et oui, une nouvelle série régulière chez Vertigo, ça mérite qu'on sabre le champagne.
C'est fou. Et donc, on a les créateurs originaux aux manettes, donc Kurt Busiek au scénario, Brent Anderson au dessin, et Alex Ross à la couverture. Une couverture flashy, tout aussi flashy que le personnage représenté qui apparaît dans ce comics-là, justement. Assez moche, c'est terrible. C'est assez rigolo, puisque dès la première page, Kurt Busiek brise le quatrième mur, et c'est un personnage qui s'appelle The Broken Man. Alors, je précise juste que je n'y connais rien en Astro City, je n'ai jamais lu d'Astro City. Voilà. Donc, c'est The Broken Man, un monsieur à la peau violette et aux cheveux verts, qui a l'air un peu taré, qui s'adresse à nous en nous disant là, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, c'est très risqué, maintenant tu travailles pour moi, et tu vas chercher un héros dans Astro City qui pourrait faire le job. Et il va un petit peu nous balader dans Astro City, et on va rencontrer quelques personnages qui semblent bien connus d'Astro City, comme cette petite fille, c'est American Chibi, cette mini fille sortie des animes, d'un animé très chelou.
Elle a une tête de Powerpuff Girl, en fait.
C'est ça. C'est une Powerpuff Girl. On va rencontrer...
sa vraie tête ou un masque d'autres...
Non, c'est sa vraie tête. Apparemment, vu comment elle est, ça a l'air d'être sa vraie tête.
La pauvre. Ça doit pas
être
facile.
Sa vraie tête. On va rencontrer le Samaritan. On va rencontrer plein d'autres personnages que je connais pas. Voilà, ils nous baladent comme ça. Et en fait, le centre de l'histoire, c'est qu'il y a dans Astro City, donc cette ville où il y a des héros, voilà, qui a été un peu renommé du nom d'un héros qui a sauvé cette ville, qui s'appelait Astro, je sais plus quoi. Et
le
depuis, il y a des héros. Voilà. Et donc dans cette ville, il y a une énorme porte dorée qu'on voit sur la couverture, immense, fermée, qui flotte dans l'air, qui est apparue depuis 2 semaines, et on ne sait pas ce que c'est. Alors les héros, ils la bourrinent pour essayer de la détruire ou la faire ouvrir. Enfin, ils s'en sortent pas. Ils sont un peu cons. Et d'un seul coup, la porte s'ouvre et y a le personnage qu'on voit en couverture qui sort et qui va expliquer un petit peu qui il est. Et c'est assez drôle. Et en parallèle, on va suivre le destin, justement, lié à ce personnage, le destin d'un monsieur tout le monde d'Astro City, qui a une vie sympa. Il est divorcé, il a deux jolis enfants, il gagne plutôt bien sa vie, ça va, et qui va, je ne vais pas vous raconter pourquoi, mais qui va être lié à l'apparition de ce genre de géant fluo, doré et violet fluo qu'on voit sur la couverture. C'est très drôle, le narrateur justement explique un petit peu la situation et les personnages de manière très, très drôle, parce qu'il explique en fait, en nous montrant les héros, que ce héros-là, il est vraiment pas fait du tout pour justement la situation qui arrive, parce que c'est trop un bourrin, ou l'autre c'est vraiment une gamine qui est complètement ridicule, un peu idiote. Donc c'est très très drôle. La fin est très drôle aussi, parce qu'on se rend compte de qui est ce Broken Man, le narrateur, et où il se trouve en fait, et voilà, et c'est quoi son délire. Et voilà, pour moi c'est un gros bail, c'est vraiment cool, et je pense que je vais aller lire les TP des premiers Astro City, parce que j'ai trouvé ça très très drôle, et un ton vraiment décalé et une histoire qui a l'air assez intéressante. Voilà, c'est bien écrit, c'est cool.
Si jamais tu veux tout relire, hein, tu as l'édition dont on a parlé la semaine dernière, qui reprend le gros omnibus qui reprend tout Astro City, qui vaut $100, et où tu as tous les épisodes qui étaient sortis jusqu'à présent.
Ben, je vais peut-être faire
non, c'était top 10, pardon, je suis en train de dire une
c'est
bêtise.
Le
gros fail en direct.
Avec des héros.
Le non, gros drôle, fail en direct.
Un petit exemple, le personnage, donc bien sous tout rapport, genre cinquantenaire, un peu dégarni, il a créé une application mobile où c'est de la géolocalisation, et il t'indique le meilleur trajet pour éviter les combats de super-héros en ville. c'est très drôle, tu vois. C'est pas les bouchons, c'est les bastons de super-héros. Donc non, c'est vraiment très drôle. Les dessins de Brent Anderson sont cool. C'est vraiment 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 taré, quoi. Donc ouais, gros bail, c'est cool. Voilà.
Et bon, on va terminer notre partie indé avec Bruno, qui devait être en mal de sensations fortes puisqu'il est parti chercher un produit chez Inscope.
Eh oui, je vais vous parler de Scrooge.
Ouais, surtout vu le nom, hein.
Ouais, Donc c'est à la, pour ce comics en fait, qui est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il y a Tyler Kirkham qui a donné l'idée en fait, et au scénario c'est Case Thomas et au dessin c'est David Miller. Donc c'est un style de dessin, c'est vraiment étonnant parce qu'on dirait vraiment que c'est Tyler Kirkham qui dessine les intérieurs. Il ne fait que les couvertures, mais pourtant c'est vraiment la même école, exactement le même style. Donc l'histoire, ça commence dans un hôpital avec une nana qui se réveille. Elle vient de se prendre des décharges dans la tronche et elle a un gars défiguré qui est en train de la défoncer, quoi, de lui donner des grands coups de poing dans la gueule. Et
Oui,
en fait.
précise parce que on est chez Inscope, on sait jamais.
Oui, c'est, non, il n'y a pas du tout de, enfin, pour l'instant, en tout cas dans le premier numéro, il n'y a pas du tout de côté érotique. La nana est d'ailleurs en fait une sorte de Frankenstein puisqu'elle est, elle a des cicatrices partout. Et on a d'ailleurs pas mal de clins d'œil à l'univers de Frankenstein, comme par exemple à un moment un docteur Shelley qui est appelé à intervenir.
Docteur Chéléo, comme c'est facile.
Voilà, c'est très facile. Mais donc la nana, en fait, elle se révèle, elle a perdu la mémoire. Elle sait pas pourquoi elle est là. Elle sait pas comment ça se fait que le fait d'avoir été électrocutée, ça lui a permis de se réveiller. Et surtout, en fait, elle se rend compte qu'elle a une force surhumaine. Et de façon étonnante aussi, elle a une sorte de distorsion de la réalité, c'est que tous les gens qu'elle voit, elle a l'impression que c'est des monstres, et elle a l'impression qu'ils vont la tuer. Et donc, bah, comme elle est très forte et qu'elle a pas envie de se faire tuer, bah, elle les défonce. Et du coup, elle tue plein de gens, des pauvres innocents et tout, qu'elle croit être des monstres. Donc c'est un peu une fille anti-héros qui sait pas du tout ce qui lui arrive. Qui se retrouve avec un méchant défiguré qui veut la tuer, un agent du FBI qui essaye de la retrouver parce qu'ils savent pas qui était cette nana qui était arrivée à l'hôpital sous un état cliniquement mort. Il y a des sortes de monstres qu'elle voit et que nous on voit pas. C'est très très mystérieux. C'est plutôt bien dessiné. C'est assez, c'est violent, c'est rigolo. Donc franchement, c'est une bonne petite surprise. Un titre qui sera une mini-série. Voilà, ça a pas l'air de payer trop de mine, mais franchement, pour une lecture Zinescope, c'est plutôt sympa. Donc pour moi, c'est
C'est une
un check-it.
mini en 6, hein,
Ouais, donc voilà, en plus, c'est pas très long. De jolies couvertures de Tyler Kirkham, et puis bah surtout, bah, ça m'a donné envie d'aller voir la suite, parce que c'est quand même assez mystérieux cette histoire qu'elle voit des monstres partout. Donc à suivre.
Précisons que ça n'a rien à voir avec le crossover qu'il y a actuellement dans l'univers Inscope qui s'appelle Unleashed et que apparemment, donc vu ce que tu en racontes, ça n'a aucun lien avec l'univers Inscope en général, les Grim Fairy
Non,
Tales
ouais,
et compagnie.
c'est vraiment
Donc
à
voilà, c'est
part,
visible
ouais.
par tous, quoi.
C'est vraiment à part. Elle a des gros boobs, mais sinon c'est tout.
Ok. Bon bah donc un check-it, c'est ça?
Un check-it, ouais.
On va terminer notre partie de review avec DC et on commence avec Flo qui nous parle du 21e épisode de Swamp Thing.
Tout à fait. Donc c'est Charles Soule qui écrit pour son troisième numéro de Swamp Thing et c'est Jesús Saiz qui dessine. Jesús Saiz qu'on a vu récemment dans un fill-in sur Justice League et j'avais beaucoup aimé son style. Et là c'est très très joli je trouve. C'est très très beau.
Entièrement d'accord.
C'est vraiment très réussi, quoi. Donc on reprend là où on l'avait laissé, donc Swamp Thing dans son marais, qui d'un seul coup se fait importuner par une jeune fille un peu dans une sorte d'armure étrange, qui s'incline et qui demande à être sauvée, qui invoque la protection de l'avatar du Green. Donc c'est très étrange. Et en fait, on se rend compte un petit peu que d'où vient cette fille qui s'appelle Capucine. Et qui pourrait être un personnage redondant de la série, et qui en fait a pour origine une genre de, pas de secte, mais de clan, qui a été fondé par un ancien avatar du Green, qui a voulu protéger, un avatar du Green qui vient du Moyen-Âge, qui a fondé un sanctuaire pour protéger ceux qui ne. On va dire qu'il n'était pas dans les clous de la chrétienté
Oui, bah des
en
espèces
Europe.
de païens hein, qui
Voilà, les
vénéraient
païens, quoi, tout simplement.
les.
Je cherchais le mot. Les païens,
Voilà,
en
qui
gros.
vénéraient les forces de la nature.
Voilà. Donc un avatar qui était présent notamment en France au 12e siècle, au 12e et 13e siècle. Donc
Voilà,
c'est assez intéressant.
un très bon épisode parce que Cocorico, voilà. Oui, j'ai envie de faire mon
Cocorico, ça se
nationaliste moi
passe en
aussi.
France. Tout à fait. Et voilà, on voit un petit peu d'où cette fille vient et pourquoi elle invoque la protection des Green, parce qu'elle se fait pour poursuivre. Je vais pas en révéler beaucoup plus. Je vais pas en révéler beaucoup plus, si ce n'est que ce personnage de Capucine a l'air d'avoir un sacré caractère. qu'on se plonge dans le passé d'un autre avatar du Green, et ça c'est vachement intéressant, je trouve, et qu'on en apprend un petit peu plus sur la menace globale que nous a introduit Charles Saul, qui s'appelle le Seeder, le planteur. Oui, c'est ça, ça veut dire ça.
Oui, je grosso modo, planteur, on peut traduire par ça. Le semeur, peut-être.
Germinator.
C'est un quetard.
Je ne sais pas. Mais voilà, Steve, tu veux en dire un mot?
Franchement, ce que j'aime bien, enfin, déjà les deux premiers épisodes de Charles Saul m'ont, on va dire, rassuré concernant le changement de main de la série. Je suis vraiment à bord par rapport à cette série. Voilà, il m'a pris dans le truc et j'ai vraiment envie de continuer. Le personnage de Capucine est assez intéressant. J'ai l'impression que Charles Saul joue avec le fait de nous amener une autre femme qui a des cheveux presque blancs, qui pourrait être
un... ressemble à Abigail.
Voilà, il y a ce petit côté. Est-ce que Swamp Thing va pas tomber, peut-être amoureux d'elle. Voilà, il essaye de nous faire un espèce de love interest. Mais c'est trop gros pour que ce soit vrai, justement. Je pense qu'il amène sur une faute piste et qu'il joue avec ça. D'ailleurs, il joue avec ça dès les premières cases.
Swamp Thing est plus emmerdé par cette fille. Il comprend rien à ce qu'elle raconte. Sanctum, machin, elle commence à lui parler en latin, à invoquer un truc. Il est pas au courant. C'est seulement après qu'il se rend compte d'où ça sort. Et voilà.
Et puis bon, voilà ce petit passage dans le passé qui nous montre cet ancien Swampy. Plutôt pas mal, quoi. Ça te donne envie de voir. Bon, malheureusement, le sort qu'il va subir te donne aussi envie de voir la suite, remarque, mais pas de la même façon.
Tout à fait.
Donc, même sur trois pages, le personnage qui arrive est quand même assez charismatique, notamment cette espèce de petite armée qui l'accompagne. Moi, ça m'a vraiment.
Ça, c'est vraiment sympa. Déjà, son design, il est cool. Il est vraiment cool. Ce genre de protecteur un peu des païens et tout, j'ai trouvé l'idée vraiment cool. Puis, ces petits avatars, là, ces petits soldats, là, c'est vraiment sympa. Vraiment sympa. Il arrive à. Ce qui est bien, c'est qu'il arrive à donner de l'épaisseur à des personnages et à une histoire très rapidement, Charles Saul. Et c'est très cool, par quelques réflexions bien senties, quoi. Il y a pas mal, si vous voulez, de narration, mais c'est jamais des trucs très lourds, et c'est toujours bien senti, quoi.
Et puis, il y a pas de bulles ou de cases qui sont pour ne rien dire, quoi.
Ah, tout à fait, ouais, tout à fait. Alors que d'habitude, quand il y a de la narration, souvent, c'est un peu pour faire son littéraire, pour un peu blablater et tout. Et là, pas du tout, c'est très bien foutu, c'est très bien écrit, très élégant. Cet auteur que j'ai découvert avec Swamp Thing 19 m'étonne vraiment. Quoi.
Bah pareil pour moi, ouais.
Donc ça ne vous saoule pas pour l'instant.
Ça ne me saoule pas, non.
Mais
non.
Tu vois, j'irais même voir ces Thunderbolts juste pour voir ce qu'il va donner sur quelque chose de complètement différent. Alors que j'en ai absolument rien à branler de cette série. Quoi.
Et son Red Lanterns aussi.
Et son Red Lanterns, bien sûr, ça oui. Mais voir ce qu'il va donner sur d'autres choses, parce que voilà, le mec me séduit par sa façon d'écrire, en tout cas sur Swamp Thing. Est-ce qu'il arrivera à confirmer sur d'autres titres? Ça reste la grande question.
En tout cas, voilà.
Bah, gros bail, hein, cool. Pour celui-ci.
Ouais,
hein.
gros bail. Comme les deux précédents, c'est super, c'est toujours cool. Et je pense que celui qui dit que la relève de Scott Snyder, gna gna gna, est nulle. Honnêtement, il est de mauvaise foi, je pense, parce que c'est vraiment de la qualité.
Ouais, on est sur une autre une version différente du Swamp Thing, et d'ailleurs, Scott Snyder a vraiment clos son chapitre, on est sur autre chose maintenant.
Ah ouais, c'est vraiment tout à fait autre chose.
Et voilà, c'est très bien. Justement, on reviendra sur ce principe de tourner la page et de changer de chapitre, on y reviendra tout à l'heure avec le Green Lantern. On va continuer maintenant avec le Green Arrow numéro 21, qui, je l'annonce tout de suite, est mon coup de cœur de la semaine. C'est scénarisé par Jeff Lemire, dessiné par Andrea Sorrentino. C'est la fin du premier arc de Jeff Lemire sur la série, l'arc qui s'appelait The Killing Machine. Et on a enfin les réponses, puisque depuis le départ, chaque épisode, depuis le départ de l'arc, en tout cas, chaque épisode débutait sur... Oliver Queen qui était dans le désert, qui errait complètement, qui cherchait des trucs, et là on voit où il est arrivé, et on va avoir des réponses, beaucoup de réponses aux questions que l'on se posait, notamment qui est Komodo, celui qui l'a pourri tout l'arc, hein, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, il l'a carrément pourri, celui qui a détruit toute sa vie, puisqu'il lui a enlevé son Queen Industries, il lui a fait perdre toute sa richesse, il lui a tué la plupart de ses amis. Donc le mec l'a quand même bien emmerdé en un seul arc. Et puis on va avoir quelques réponses en tout cas sur Magus, ce nouveau personnage qui n'a pas d'œil. Ou en tout
pas
cas,
Dieu, même.
Pas Dieu, oui. Voilà. Oui, parce qu'il, oui, il aurait pu en avoir qu'un, mais en fait, non, il en a carrément pas, il en a pas du tout, en fait. Et qui a des jolies cicatrices à la place des yeux. Et Magus va lui faire, faire un espèce de voyage spirituel très chamanique, dans son passé. Et on va comprendre que l'île sur laquelle est arrivé Oliver Queen, il n'y est pas arrivé par hasard. Et au-delà de ça, il va développer toute une mythologie dans Green Lantern, qui m'a personnellement fait penser à...
Green Arrow.
Oui, dans Green Arrow, pardon. Oui, oh, l'habitude. L'habitude. Dans Green Arrow, il a développé toute une mythologie qui, d'un côté, fait un peu penser à Green Lantern, c'est sûr, mais m'a surtout fait penser à ce qu'avaient fait Brubaker et Fraction sur Iron Fist, avec les différents clans. Et du coup, c'est vraiment, pour moi, la claque de la semaine. Rendre un personnage qui n'avait quasiment rien de surnaturel à quelque chose de presque mystique. Et voilà, enfin moi j'ai vraiment été super surpris quoi. Je sais pas ce que t'en as pensé, Flo.
Ah oui, c'est effectivement cette tournure mystique et ce pourquoi des mystères autour de son père, autour de Commodo, autour de Magus. Déjà, il y a une épaisseur quand même assez importante quoi, une densité dans ce numéro qui pourtant se lit vite, hein, est très fluide et se lit assez vite, mais il y a quand même beaucoup de choses. Et il y a effectivement cette portée mystique, un peu magique, ancrée dans l'histoire, dans des temps un peu immémoriaux. C'est vachement intéressant, je trouve, ce qu'il construit là avec cet arc. Et ça ouvre sur la suite qui est vraiment intéressante. Et ça a posé vraiment des bases mythologiques et plein de choses sur le personnage que moi je trouve excellente.
Et voilà, on passe d'un Green Arrow qui était un personnage un peu solitaire, un petit peu dans son coin, qui n'avait pas forcément de talent particulier à part tirer des flèches. Ah, une espèce de... Bah voilà, on va avoir différentes incarnations, finalement, peut-être, de Green Arrow à travers le temps. On va avoir... Enfin, toutes les portes sont ouvertes, il nous a vraiment rendu le personnage, il l'a complètement modifié, tout en nous le ramenant aussi à des racines, notamment les passages de Green Arrow où le mec était sans le sou, n'était plus qu'un protecteur, finalement, notamment toute la période McGrell, dans les années 80-90. Et voilà, le mec Enfin, Jeff Lemire a pris ça et a ajouté sa sauce et ça donne quelque chose de complètement différent et on a totalement un nouveau Green Arrow finalement qui se dévoile à nos yeux là.
Ah, complètement. Bah, il fait un peu aussi un peu les miracles qu'il a fait avec Animal Man aussi quoi, de rendre un personnage qui a l'air ridicule ou qui est pas du tout, qui est un peu hors de son temps, qui lui ajouter des choses vraiment et qui en plus sont bien cohérentes avec le personnage et sortent pas de nulle part quoi. C'est impressionnant.
On
pensait plutôt Green Arrow, oui, comme un petit vengeur un peu street level. Enfin moi c'est l'image que j'ai du personnage.
Bien sûr, c'est normal.
Voilà, qui a pas de pouvoir particulier, qui sait très bien tirer les flèches. Et effectivement, il y a tout ce truc mystique qui est excellent quoi.
Il nous a transformé un sous Batman en un personnage propre.
C'est ça,
finalement.
Ouais, tout à fait. Un sous Batman en un truc vraiment original et vraiment avec une vraie histoire à lui, très très riche. Quoi.
Et pourtant, même s'il a carrément détruit l'univers d'Oliver Queen classique, il n'a pas complètement effacé ce qui a été fait sur les premiers épisodes des New 52, c'est-à-dire que Green Arrow a toujours cette équipe qui le suit. Voilà, tous les personnages n'ont pas disparu et
oui,
ça, c'est
il
voilà.
Il n'a pas tué tout le monde. Il y a quelques survivants.
Et donc, il a utilisé ce qui avait été fait avant lui, les diverses incarnations, mais il a utilisé vraiment la partie New 52 pour construire son histoire. Et ça aussi, c'est vraiment propre, parce qu'il aurait pu se débarrasser de tout, et non, finalement, il garde quelques concepts. Donc, qui auraient découvert le Green Arrow avec le New 52 ne seront pas complètement perdus, et la série, certes, si elle part dans une autre direction, elle n'a pas totalement changé.
Non, c'est vrai. Un petit mot des dessins qui sont absolument sublimes d'Andrea Sorrentino. Il nous avait habitué à des scènes notamment de baston très dynamiques avec des genres de focus etc. sur des détails très intéressants et là il est tout à fait dans un autre truc vu que c'est un peu un voyage mystique de Green Arrow et à base surtout de la couleur verte et de la couleur rouge.
Moi, j'aurais dit à base de drogue, mais...
oui, ça part de drogue. Et ouais, on a un numéro qui est dominé par la couleur verte et rouge, avec des décors avec beaucoup de nature et un peu de trucs un peu mystiques. Et on n'avait pas vu Andrea Sorrentino sur des décors comme ça. On était plus dans l'urbain et la baston très dynamique et tout. Et il s'en sort très, très bien.
Ça lui convient aussi.
Tu me feras le plaisir de lire Eye Vampire, hein.
tout à fait. Non mais c'est superbe. Le travail des couleurs est superbe parce qu'il y a notamment toute plein de pages avec où il y a que le ce vert, ce rouge et le blanc des fonds des pages où tout le fond est blanc et c'est superbe quoi. On se dit pas ah il manque du fond, il y en a quand il faut non. Et c'est.
Mais vu que là c'est on va dire c'est justifié puisque c'est dans un voyage, dans un trip
c'est
total,
un genre de rêve,
c'est totalement justifié en termes de storytelling, donc ça passe tout à fait quoi. Bah, la double page où il y a l'île, moi je la trouve super.
Putain, elle est magique quoi. Et là pour le coup c'est un truc où j'attendais pas Sorrentino quoi. Sur ce genre de truc, j'avais surtout vu sur des personnages, sur voilà. Et là, je l'attendais pas sur des décors comme ça. Et c'est super.
Il a vraiment trouvé son style parce qu'il y a beaucoup de gens qui le considéraient comme un sous-Jelly, ce qui est faux parce que dans High Vampire, il avait vraiment un style différent. Mais donc, il a vraiment trouvé son truc quoi.
Bah, les premiers épisodes de High Vampire, si c'était du sous-Jelly.
Peut-être les deux premiers. Il y a encore. Moi, j'ai vraiment jamais trouvé vraiment que ça c'était du sous-Jelly.
Bah, il y avait quand même une forte inspiration, quoi. Ça
se sentait. Inspiration, mais c'était un style qui rassemble, qui rappelait, mais il a quand même son propre style, quoi.
Enfin, moi, j'ai vraiment hâte de découvrir le nouvel arc, du coup, et découvrir ce pourquoi des trois dragons, vous comprendrez à la lecture. Enfin, et puis découvrir tous ces nouveaux clans aussi. Bref, la mythologie de Green Arrow vient de s'envoler et vient de s'ouvrir, et vraiment une grosse claque. Et j'espère qu'il fera aussi bien que ce qui a été fait sur Iron Fist, parce que j'ai vraiment la sensation de revoir dans un autre élément la même chose qu'avait apporté Fraction et Brubaker, et j'avais adoré, et j'espère que ce sera aussi bon quoi. Donc, gros bail.
Gros bail également, tout à fait.
On va continuer avec toi Flo, qui va nous parler du 21e épisode de Detective Comics.
Oui, donc John Layman au scénario, dessiné par Scott Eaton, donc encore je crois.
Ouais,
c'est lui qui avait déjà dessiné machin, à tort. Scott Eaton au dessin et le backup par Andy Clark, et toujours scénarisé par John Layman. On retrouve dans l'histoire principale, donc c'est un nouvel arc, hein, on part sur autre chose, un personnage qui était apparu apparemment dans Detective Comics 0, qui s'appelle Mio, et qui est une apprentie de la Ligue des Assassins que Bruce Wayne a rencontré pendant son voyage initiatique en Himalaya, et on la retrouve des années plus tard à Gotham, chargée d'assassiner l'ambassadeur du Bhoutan. Alors je sais pas ce que la Ligue des Assassins a à faire avec l'ambassadeur du Bhoutan, ou non, le premier ministre du Bhoutan, qui est un tout petit périple qui sert à rien. Mais bref, voilà, elle est là.
Parce qu'ils n'ont pas les trains dans le Bhoutan, parce que le Bhoutan train.
D'accord. Bon, je continue, j'ignore totalement. Et donc cet assassin que Batman croyait décédé et qu'il y avait une petite amourette entre deux à cette époque-là, donc Batman va la retrouver à Gotham et elle a développé des pouvoirs assez étranges. Elle peut créer des armes un peu en ombre, de manière magique elle crée des genres de constructions, donc elle arrive à se construire quatre bras avec des sabres, du coup c'est plus pratique pour se battre.
Tu m'étonnes.
Et aussi grosse apparition très importante dans ce numéro, Harper Row, qui va un peu fouiner et qui va finalement se mettre en danger et en même temps filer un coup de main du coup malgré elle à Batman. J'ai bien aimé l'apparition d'ailleurs d'Harper Row malgré le peu de sympathie que tout le monde a pour elle. J'ai trouvé ça intéressant, je sais pas où ça va mener, mais j'ai trouvé ça intéressant. Je sais pas trop où ça va, très honnêtement. Comme arc, ça sera un arc qui sera centré sur la Ligue des Assassins, ça c'est sûr, avec un personnage bien connu à sa tête, mais je ne vous en dis pas plus. Et voilà, pour le moment, je ne sais pas où va aller cet arc, mais c'est plutôt sympa à lire et un peu moins lourd que la fin de son arc sur Ogilvy et l'Empereur Pingouin.
Tu m'as donné vachement envie parce que le Detective Comics 0, c'était un des zéros que j'avais préféré avec une histoire vraiment intéressante. C'était Greg Hurwitz qui avait fait le scénario. Et le fait que Layman reprenne un personnage qui, à la fin du zéro, faisait un sacré coup de pute à Batman, enfin à Bruce, c'est vraiment bien qu'il ait repris ce personnage. Donc ça me donne vraiment envie de m'y remettre.
À mon avis, c'est un personnage qu'on va retrouver qui va être au centre de l'arc et cette relation avec Bruce, etc. À mon avis, c'est central.
Donc, Layman fait un bon boulot.
Bah pour le moment, c'est toujours assez constant. Hein. Bon, c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est plutôt pas mal. Un petit mot sur le backup qui est centré sur Kirk Langstrom, là, le mec qui a fait Man Bat, quoi. Qui est centré sur Man Bat. Voilà, une petite histoire. Ça va être un petit arc un peu parallèle sur le Man Bat. C'est pas, c'est très anecdotique. Ceci dit, c'est très beau parce qu'Andy, j'aime beaucoup ce qu'Andy Clark fait. Et j'aimerais bien le voir sur une série enfin, principale, quoi, parce que j'aime beaucoup ce dessinateur.
Mais peut-être est-il un peu plus lent et c'est pour ça qu'il ne se cantonne qu'à des backups.
C'est possible parce que c'est très détaillé, c'est très beau, c'est vraiment très joli. Voilà, c'est un bon check-it, quoi. C'est pas génialissime, mais surtout à côté des belles, très belles sorties qu'on a ce mois-ci, mais c'est pas mal. Un bon check-it.
On va terminer notre partie d'essai avec la grosse sortie de la semaine, celle qui était très attendue. C'est le Green Lantern 21 et c'est Bruno qui va nous résumer tout ça.
Et oui, après, il faut passer après Jeff Jones, ce n'est pas facile. Et donc pour ce travail, en fait, c'est Robert Venditti qui s'y colle, avec Billy Tan au dessin. Donc ce premier numéro de cette nouvelle génération en fait de Green Lantern débute sur Oa avec une sorte de grosse bataille. On avait quitté Hal dans le numéro précédent avec déjà une bataille de fous qui avait limite détruit Oa. Et ben ça a pas l'air d'aller beaucoup mieux parce que là c'est vraiment il y a des destructions partout. Il est entouré de nouveaux personnages, de nouvelles recrues. On a l'impression ils ont l'air d'avoir beaucoup de soucis parce que là la batterie centrale, eh bien on le voit dès la quatrième page, elle est vide. Donc c'est un peu la merde et on voit au loin la future menace qu'on nous a teasée depuis un certain temps, ce fameux relique. Donc voilà, on commence déjà tout de suite dans l'action et après par la suite on va nous revenir en flashback pour nous expliquer un petit peu comment on en arrive là. C'est assez verbeux ce que fait Venditti, puisqu'on retrouve au départ Hal qui retourne sur Terre pour discuter avec Ferris, sa copine qui fait un peu sa pute, hein, parce que elle est là, Hal, je t'aime bien et tout machin, mais j'ai cru que t'allais mourir, donc j'étais triste et tout, mais maintenant qu'on est ensemble, je sais pas, en fait, je sens pas trop, donc voilà.
Attends, la meuf, je la comprends, il est toujours en train de se barrer.
Il est toujours
en train de se barrer, on ne sait pas où. Et le mec, il revient, et dès qu'il revient, il faut que les choses repartent comme s'il n'était pas parti, quoi. Mais au bout d'un moment,
ouais,
ça peut pas marcher, cette
histoire. Le mec, il est quand même mort, il a quand même sauvé le monde.
Il est un petit peu devenu parallaxe aussi. Hein.
Ouais, mais bon, ça, c'était du passé. Oh là là, cette Carole Ferris. non, si, c'est assez amusant. Après, on va. Venditti va développer un petit peu le nouveau statu quo sur Oa avec quel va être le rôle des gardiens, un petit peu de ces gardiens qui avaient été enfermés et qui avaient été libérés à la fin de l'arc de Jeff Jones. Savoir
les Templars
si oui ou
Guardians.
Non, ouais, voilà, c'est ça, les Templars. Savoir si oui ou non ils vont reprendre un petit peu le contrôle du corps. On a aussi Kyle Rayner qui est là. Il y a 2-3 petits dialogues assez sympas avec Hal Jordan qui m'ont bien fait sourire. Voilà, il place bien les choses. Salak a lâché son boulot. C'est Kilowog qui le remplace, ce qui est très très drôle, puisque Kilowog a du mal à s'asseoir sur le siège de Salak. Il est un petit peu à l'étroit. Donc un petit peu d'humour et puis beaucoup d'action. Franchement, ça se laisse lire. C'est plutôt pas mal. Les dessins de Billy Tan sont très corrects. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc un bon début d'arc. Qui donne envie. Personnellement, moi, ça m'a donné envie de voir ce qui va se passer par la suite.
Qu'est-ce que t'en as pensé, Flo ?
J'ai bien aimé le fait qu'ils reposent des choses, qu'ils reviennent un peu sur Terre, après tout ce bordel, parce que j'ai l'impression qu'on n'en finissait pas des faux crossovers, etc., au point que je me souvenais quasi même plus de... Enfin, où en était la relation entre Carole Ferris et...
Je me souvenais même plus de la Terre, en fait. Je savais plus à quoi ça ressemblait.
Les moments, quand je dis Green Lantern ou Green Lantern Corps, que j'adore, c'est quand à un moment ils reviennent sur Terre et qu'il se passe des trucs sur Terre. C'est pour ça que j'avais adoré le premier arc avec Sinestro et Hal Jordan sur Terre, le premier arc des New 52, etc., ou quand Guy Gardner revient sur Terre. Et là, c'est cool parce qu'il revient un peu sur Terre. On nous remet un petit peu Carole Ferris, tout ça, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Il prend ses marques. On sent que Venditti, il prend en main les persos tranquillement. Voilà, il nous presse pas trop après tous les événements qu'on a vus précédemment. Et quant au statu quo de Oa, je le trouve intéressant et il a potentiellement plein de choses à développer là-dedans, quoi, avec ses nouveaux gardiens, le rôle d'Hal Jordan aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses intéressantes. Les dessins sont, je trouve, très jolis. Billy Tan, c'est vraiment cool. Donc ouais, voilà. Je suis plutôt enjoué, quoi.
On termine aussi par une dernière page qui est très classique, hein, ce que nous avait déjà fait Geoff Johns plusieurs fois, c'est-à-dire une page où on a plein d'éléments du futur, ouais, mais qu'on teaser, ne comprend pas forcément, voilà, des images, voilà, une planète qui explose, des vaisseaux qui s'enfuient, ouais, du Mogo, du Relic, un petit peu de tout, quoi, des choses qui ouais, te donnent un petit peu envie, qui te teasent, mais qui t'en révèlent pas trop finalement, donc ça c'est plutôt cool.
Et à noter un truc aussi, c'est que si vous voulez vous mettre à Green Lantern et que vous avez pas du tout lu du Geoff Johns, bah pour une fois en fait, à la fin, cette fameuse chaîne de télé qui explique un petit peu ce qui se passe dans l'univers DC, en fait là il retrace un peu tous les différents corps de lanterne, quel est leur rôle, quel est leur pouvoir, et donc en fait ça fait aussi guise un peu de présentation, donc si vous voulez découvrir l'univers de Green Lantern, allez-y.
Le Channel 52 est pour une fois très intéressant.
Voilà,
ouais, c'est et ça. Puis bon, comme ça sort dans tous les comics, sur tous les comics DC, c'est voilà, c'est pas mal, effectivement. Si, il y a un truc marrant, c'est aussi un axe pas mal, c'est la question du recrutement. Enfin, on va pas en raconter trop, mais la question du recrutement de nouvelles lanternes, parce que le Green Lantern Corps est un petit peu exsangue tout de même. Et donc voilà, il y a aussi des pistes intéressantes là-dessus. Et qu'est-ce que c'est d'être un Green Lantern et comment ça peut être compliqué à vivre, et Al Jordan, à mon avis, va avoir pas mal de boulot.
Et Flo, moi j'ai envie de savoir un truc, c'est quel est l'avis de Steve sur Green Lantern, parce que bon, c'est quand même notre gros fan ultime de Green Lantern.
C'est de la merde, j'arrête d'acheter cette série à tout jamais. Je plaisante. Non, très très bonne reprise de Robert Venditti, qui de toute façon avait déjà prouvé plusieurs fois qu'il était très doué sur les séries qu'il écrivait, notamment Exo Manowar chez Valiant, entre autres. Non, j'ai été vraiment... bien pris dedans. À la rigueur, ce qui m'a plus gêné, c'est parce que c'est trop classique et que ça me saoule, mais en même temps, je veux dire, pour attirer, parce qu'après Geoff Johns, il fallait bien, c'est commencer par la fin. Ça me gave. Traditionnel truc à la J.J. Abrams. On commence par te montrer une scène grosse action où les personnages sont hyper dans la merde, puis après on te fait quelques jours avant.
Ouais, ça c'est le truc, c'est plusieurs fois tu nous as dit t'aimais pas du tout ce genre.
Je peux plus, c'est que c'est trop classique comme narration.
C'est suranné, ouais, c'est clair.
Mais je comprends pourquoi il l'a fait, parce qu'il fallait qu'il mette en place une menace pour que les gens viennent voir. Parce que Robert Venditti va être attendu au tournant, parce qu'il passe après Geoff Johns, parce que voilà, tout ça. Donc bon, ça peut se comprendre un petit peu. J'ai bien aimé aussi l'action qui se passe dans cet épisode, c'est-à-dire l'Arflees qui débarque. On n'en dira pas plus pour pas trop spoiler, mais voilà, ça c'était aussi sympathique de voir que l'Arflees est toujours là, plus énervé que jamais.
Un crevard, quoi.
Ouais. Bon, est-ce que ce sera raccord avec son propre titre?
Ah. Tu te rappelles qu'il y a un titre l'Arflees qui sort?
Oui, mais c'est bon, cette fois-ci je l'ai pas oublié. Donc non, franchement, très bonne reprise des personnages qui sont classiques mais qui sont mis dans des rôles différents et qui donc modifient un petit peu la donne. Non, j'ai envie d'aller voir la suite. Voilà. Après, je jugerai sur l'arc complet, mais j'ai envie d'aller voir la suite. Moi, je suis par contre absolument pas convaincu par Relic pour le moment. On le voit à peine, mais que ce soit en termes de design. Bon, on savait déjà que ce serait un personnage géant. Est-ce qu'on avait besoin d'imposer une aussi grosse menace tout de suite? Est-ce qu'on pouvait pas juste laisser le temps à tous les nouveaux scénaristes de prendre leur marque et puis après, peut-être, ou à partir du deuxième arc, démarrer, quoi? Bon, on verra si c'est bien mené ou pas. Bon, en tout cas, très bonne reprise et pour moi, c'est un gros bail. Cet épisode, c'est vraiment le moment, comme tu l'as dit, Bruno, de se mettre à Green Lantern si on n'avait pas pris le train en marche. C'est tout à fait faisable dès maintenant.
Voilà, un bail pour moi aussi.
De toute façon, pour vous aussi,
très bon bail. C'est bien. Enfin, un truc qui va bien dans les changements d'équipe créative chez DC. Ouf, avec Swamp Thing. Ouf.
Voilà, c'est tout pour les reviews de la semaine. On va maintenant passer au TPB. Et on commence parce qu'il y a encore une fois beaucoup de grosses sorties cette semaine en TPB. Ils inondent le marché, hein, les salauds. Ils veulent nous faire cracher notre fric.
Ouais, carrément.
On commence donc avec Dark Horse qui nous sort la Hellboy Library Edition Volume 6, qui va reprendre les mini-séries The Storm, The Fury et The Bride of Hell. Ça vaut $50, c'est vraiment l'édition très luxueuse pour ceux qui sont fans de Hellboy et fans de hardcover et de belles éditions. On continue avec du IDW, puisqu'il y a la version TP de Star Trek Legion of Super Heroes, ce crossover qui a été publié chez IDW, scénarisé par Chris Robertson. Donc ça vaut $20, et c'est un moyen de voir ces deux équipes se mélanger. Star Trek qui est très science-fiction certes, mais très terre-à-terre, et la Légion qui est science-fiction mais avec plein de super-pouvoirs. Toujours chez IDW, on a aussi la sortie de Tarzan Russ Manning Newspaper Strips de 1967 à 1970. Ça vaut $50. C'est donc un gros bouquin qui va reprendre tous les strips qu'avait fait Russ Manning sur Tarzan. Il va y avoir plusieurs volumes, il y en aura 4, et ça vous reprendra l'ensemble de tout ce qui était paru dans les journaux. Pour les gros fans de Tarzan, c'est un moyen de les avoir dans des très très belles éditions, très luxueuses, comme sait très bien les faire IDW. Chez Image maintenant, la fin de Hackslash, puisque c'est le cinquième TPB de Hackslash Omnibus, qui va reprendre la fin de la série, puisque Hackslash s'est arrêté il y a de ça quelques mois. Vous avez maintenant la fin en Omnibus, ça reprendra les épisodes 12 à 25 de la série, ainsi que le one-shot Hackslash versus Mercy Sparks. Donc une série de Tim Seeley, hein, Tim Seeley qui fait énormément parler de lui, puisqu'il fait beaucoup de travaux partout.
Ouais, c'est vrai.
Donc $34.99. Et bon, là je mentionne juste la sortie puisque c'est la sortie du Walking Dead volume 18 qui sera donc en tête des ventes des TPB au mois de juin.
C'est clair.
Surtout pour mentionner que le TPB est sorti, donc dans très peu de temps nous aurons la version française pour ceux qui la suivent en VF.
Je crois que c'est prévu en septembre.
Voilà, la VF qui est vraiment très très proche maintenant de la sortie VO. Ça reprend les épisodes 103 à 108 pour le prix de $15. Chez DC maintenant, juste pour les mentionner, les TPB, alors le premier TPB de Batman et Robin, qui reprendra les épisodes 1 à 7 de la série Batman et Robin version New 52, scénarisé par Peter J. Tomasi et dessiné par le magnifique Patrick Gleason.
Oui, tout à fait.
Bah, le premier arc est le meilleur. Hein.
Excellent.
Voilà.
$17. Voilà, bon, c'est déjà sorti en VF, mais pour ceux qui ne suivraient pas la VF et qui ont envie de les avoir à pas trop cher, c'est Batman et Robin, ben, c'est moyen de les faire. Et puis, ben, bien sûr, pour accompagner la sortie de ce TPB, vous avez le hardcover du volume 2 avec les épisodes 9 à 14 ainsi que le 0. Donc dans le premier, il y a le 1 à 8 et non pas le 1 à 7, comme je l'ai dit. Voilà, ça vaut $25 puisque c'est du hardcover. Mais bon, voilà, ça sort en français, donc le choix est à faire pour vous. On continue avec la Harley Quinn. Harley Quinn, une série qui sortait donc pré-New 52, une série très peu connue finalement.
Là, je connaissais pas moi, d'ailleurs.
Ouais. Harley Quinn a une série régulière pendant quelques mois, même quelques années, parce que je crois qu'elle a duré 24 épisodes, si ma mémoire est bonne, donc 2 ans. Scénarisé par Carl Kaisel, avec des dessins de Pete Woods et de Rachel Dodson, ça reprend les épisodes 8 à 13 de la série, ainsi que le one-shot Our Worlds at War. Pour ceux qui voudraient découvrir Harley Quinn dans une série solo, ça date de la fin des années 90, si ma mémoire est bonne, ça vaut $17. Continuons toujours chez DC. Crisis on Multiple Earth, c'est un petit peu de mal, volume 6, qui reprend donc des histoires où la JLA rencontre la JSC, donc des histoires qui datent des années 70-80. Ça vaut $20 et ça reprend le Justice League of America 195 à 197, 207 à 209 et 219 à 220. À l'époque, c'était une tradition annuelle de faire se rencontrer ces deux équipes qui évoluaient sur des terres différentes.
Ouais, vivement qu'ils refassent ça dans les New 52.
Bah oui, puisque c'est, je pense qu'ils préparent le truc puisqu'on va avoir cette rencontre entre Batman et Superman.
Ouais, c'est ça, ouais. Peut-être ce mois-ci, ouais, d'ailleurs.
Non, ça va être le mois prochain puisque c'est pour l'épisode 2.
Ah d'accord, ok, je croyais que ça commençait dès le numéro 1.
Bah le numéro 1 sort ce mois-ci.
Ouais.
Et c'est pour le numéro 2, hein, je crois, qu'ils vont visiter la Terre 2. Okay.
Ouais. Bon, on verra, ça sera cool.
Bon, en tout cas, ce Crisis on Multiple Earth est scénarisé par Jerry Conway et dessiné par George Perez. Donc c'est du bon, ça vaut $20. Gros, gros bouquin maintenant avec Superman The Golden Age Omnibus volume 1. C'est du hardcover, bien sûr. C'est la saison Superman, hein, Man of Steel arrive.
Eh oui.
Alors, ça vaut $75, c'est vrai, ça vaut très cher, mais ça reprend tous les premiers épisodes de Superman. Vous avez donc Action Comics 1 à 31, vous avez le New York World's Fair numéro 1, le New York World's Fair de 1940, ainsi que Superman 1 à 7. Si vous voulez vraiment découvrir les premières apparitions de Superman dans un superbe ouvrage très luxueux, il en existe plein. C'est une nouvelle collection qui ressort.
C'est vachement pas cher quand il y a Action Comics numéro 1 dedans.
Je suis pas sûr que celui-ci tu arrives à le vendre à $100,000. Un autre gros bouquin qui sort cette semaine, c'est Solo Deluxe en version hardcover, une édition donc deluxe de cette série qui s'appelait Solo, une série qui a duré 12 épisodes. Ça vaut donc $50 dans son version hardcover. C'est une série où on a donné libre cours aux artistes de faire ce qu'ils voulaient. Alors vous retrouverez entre autres du Tim Sale, du Richard Corben, Paul Pop, Howard Chaykin, Darwin Cook, Jordi Bennett, Michael Allred. On a aussi Scott Hampton, Teddy Christiansen, Damien Scott, Sergio Aragonés et Brendan McCarthy. Voilà, on leur a donné.
C'est sublime. J'ai pu la feuilleter. C'est sublime.
Alors certains, par exemple, Tim Sale va faire une très longue histoire sur Batman et Catwoman. Des gens comme Richard Corben ou Paul Pope vont faire plusieurs petites histoires qui vont se passer dans des coins de l'univers DC ou ailleurs. C'est vraiment des artistes solo, justement, d'où ça porte bien son nom, solo, en roue libre. Ils font vraiment ce qu'ils veulent et ils se font plaisir. Et ils nous font plaisir d'ailleurs parce que les pages sont magnifiques.
Il y a une quarantaine de pages pour chaque artiste, en fait.
Ouais, voilà, des épisodes qui étaient doubles à l'époque, et c'est quelque chose qui est maintenant très difficile à trouver. Donc c'est vraiment le moyen de se le procurer. Et franchement, $50 pour autant de talent, c'est pas si cher payé que ça. Je sais pas si tu avais vu cette édition, Flo, passer dans ton comic shop.
J'ai vu. Ça donne très très envie. Ça a l'air super. Ouais.
Le Michael Red, notamment, était magique. Enfin, voilà, bon, bref. Il y en a pour tous les goûts. On va maintenant terminer notre partie TPB avec du Marvel. Marvel qui sort plusieurs bouquins cette semaine. Bon, on vous a sélectionné les meilleurs. X-Men Ghosts, un TPB qui vaut 34,99. Alors attention, il y avait une mauvaise sollicitation qui est passée chez beaucoup, qui donnait une sollicitation de Incredible Hulk. Alors pas du tout, hein, c'est pas une histoire avec Hulk. Ça reprend les épisodes 199 à 209 de Uncanny X-Men ainsi que le l'annual numéro 10. Ça date donc des années 70. Hein. Et on va avoir la crème de la crème puisque c'est scénarisé par Chris Claremont et en dessin, on a du John Romita, du Junior bien sûr, Rick Leonardi, du Barry Windsor Smith, du Arthur Adams.
La classe.
Et au niveau des histoires, c'est une très très bonne période des X-Men. Justement, on avait un mail cette semaine dans le Weekly News qui nous demandait un petit peu des histoires avec Rachel Gray. Et bien justement, ce TPB est fait pour toi, puisque beaucoup d'histoires ont pour point central Rachel Gray qui faisait partie de l'équipe à ce moment-là. Vraiment une très très bonne période. Vous avez retrouvé entre autres le Hellfire Club, Arcade, vous allez voir la naissance de Cable dans ce TPB. Vous verrez aussi le début de Nemrod. Il y en a pour tout, quoi. Et le fameux duel entre Cyclope et Storm. Superbe époque. Bref, $34,99 pour vous procurer, c'est monument des X-Men. Les X-Men qui étaient pour moi bien mieux à cette époque que maintenant.
On sent la nostalgie dans ta voix.
Ouais. Je sais pas si quelqu'un d'autre que moi les a lus d'ailleurs.
Non, moi je les ai pas lus, ouais, mais je serais curieux de voir ce que ça donnait.
Continuons avec l'univers mutant, puisque pour les masochistes, Wolverine Sabretooth Hardcover, ça vaut $40, ça vaut bien trop cher pour ce que c'est. C'est scénarisé par Jeff Loeb et Simone Bianchi, c'est donc la doublette qu'ils avaient fait. On a le Wolverine 50 à 55 du volume 3, donc la série qui avait commencé en 2003, et puis le 310 à 313 qui sont paris plus récemment, qui sont donc l'histoire que Jeff Loeb et Simone Bianchi ont voulu faire sur Wolverine et Sabretooth, d'où le nom Wolverine Sabretooth. Et enfin, on termine avec le gros truc de la semaine qui va vous faire claquer votre fric si vous êtes fou de Wolverine.
Qui va remplacer vos haltères de musculation.
Je pense à toi, Nono. C'est pour toi, ce bouquin. Ça vaut $200. $200, c'est pas rien. C'est le fameux Wolverine.
Ça pèse 3 tonnes.
Ouais, c'est ça. Ça pèse extrêmement lourd. C'est le fameux Wolverine Adamantium Collection Sleep Case dont on avait déjà parlé dans le Weekly News quand ça avait été annoncé. Un énorme bouquin qui reprend, mais alors plein de choses de Wolverine à travers les différentes époques. On a entre autres la mini-série Origins dedans. On a aussi des histoires qui viennent de Marvel Comics Presents, on a des histoires qui viennent de Uncanny X-Men, la mini-série de Wolverine par Frank Miller qui date de 82, on a des histoires de la série Wolverine qui était parue plus tard en 88, des histoires de Wolverine, le volume 3 donc de 2003, et puis bien sûr le début de Wolverine and the X-Men. On a vraiment Wolverine à travers les âges, les différentes incarnations du personnage, les différentes époques pour pouvoir appréhender. C'est vraiment une très très grosse édition, très très belle. Elle vaut surtout pour son emballage, hein, puisque c'est un gros volume énorme dans un boîtier, enfin bon, un truc de ouf.
Truc de ouf.
Mais ça vaut $200. Donc pour les gros fans de Wolverine et ceux qui n'auront pas acheté grand chose cette semaine ou ce mois-ci ou les 4 dernières années peut-être. Je ne sais pas. Non, vraiment, c'est très cher, mais bon, c'est quand même un objet qui, je pense, fait très joli sur une bibliothèque.
Collector.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. On vous dit à la semaine prochaine avec, bien sûr, d'autres nouveautés, d'autres TPB. D'ici là, comme d'habitude, vous nous retrouvez sur Facebook, sur Twitter, @ComicCity. Bien sûr, vous pouvez nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. Et si jamais vous avez raté des épisodes, vous pouvez, même s'il n'y a pas de continuité, quoique, Des fois, il y a peut-être des petites private jokes qui se glissent d'épisode en épisode, comme j'aimerais bien te voir aller dans l'espace et mourir, Flo.
Hein. Voilà, par exemple.
Elle est récente, cette continuité est assez récente. Donc ça...
Oui, mais si tu ne dis pas où c'est, les gens réécoutent tout.
Quand est-ce qu'on aura des retcons dans Comic City?
Ah, je ne sais pas. Mais sachant qu'on n'est pas trop fan des relaunch chez nous quand même. Ben voilà, vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes sur le site, bien sûr, sur iTunes ou sur tous les bons agrégateurs de podcasts. À la semaine prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, dépensez bien.
Ouais, et portez-vous bien.
Bonne soirée, à bientôt.